Corde 2022, Michel Bonnet. Bonjour à tout le monde. Nous sommes en pleine période de la fête d'Halloween et on peut pas faire autrement que d'en parler. Et comment ça se passait Halloween il y a 800 ans à Corde? Ou comment ça se passe aujourd'hui? Bref, je vous propose quelques réflexions sur les relations entre Halloween sur l'histoire de la fête d'Halloween et le lien éventuellement avec la vie des Cordais il y a quelques siècles. Alors, Halloween, disons-le tout simplement à l'heure actuelle, hein, le mot Halloween, c'est un ancien mot anglais avec la prononciation médiévale qui veut dire « tous les saints ». All the Saints, c'est la transcription pure et simple de Toussaint, ce qu'on appelle en français aujourd'hui la Toussaint. Oui, donc le nom est le même, mais ce nom-là, c'est le nom qu'on employait dans certaines, dans le nord de l'Angleterre, autrefois. Voilà. Mais Halloween, c'est une fête américaine. Ce n'est pas une fête anglaise, ce n'est pas une fête médiévale, c'est une fête américaine, moderne, et c'est quand même bon de le savoir, parce que qu'est-ce qu'on fait, vu que Halloween ça va pas durer, ça m'étonnerait éternellement. Alors, je signale déjà que on voit la fête Halloween surgir dans l'information, d'après les documents, etc., vers 1840 en Amérique du Nord. Donc les Américains viennent de prendre possession, si on peut dire, de leur territoire. C'est le début de l'histoire de l'Amérique. Petit à petit, on entend parler d'une fête Halloween. Comment ça se fait? Eh bien, ça se trouve que vous savez que les colons sont arrivés par vagues et de différents pays, non seulement d'Angleterre, beaucoup d'Angleterre, mais en fait du pays de Galles, de l'Écosse, etc. Puis de la France, de l'Espagne, etc., etc. Il y a eu une chose qui s'est passée vers 1840, c'est que les colons qui étaient d'origine anglaise ont pris l'habitude d'avoir une feuille de chou pour se donner des nouvelles entre eux, puisqu'ils étaient quand même dispersés, et donc les colons avaient tendance, certains au moins avaient tendance à se retrouver par RL linguistique, pour s'organiser, etc. Et alors les colons anglais ont lancé ce qu'ils ont appelé à l'époque un canard qui s'appelait le calendrier. C'était un calendrier dans lequel ils se donnaient des nouvelles. Et puis ça, comme il n'y en avait pas d'autres, puisque c'était le premier média du coin, dans les années 1850, par là, ça s'est étendu à l'ensemble de tous les colons. Ça a fait un boom, quoi, évidemment. Ça s'est diffusé moins autant que CFM aujourd'hui. Et donc, les colons, pour se donner des nouvelles, lançaient ce calendrier qui s'est bien diffusé. Et évidemment, dans ce calendrier, ils donnaient des nouvelles de ce qui se passait, de ce qu'ils avaient fait ou de ce qu'ils allaient faire, etc. Et là-dedans, les colons anglais ont pris l'habitude de parler de la fête d'Halloween qu'ils avaient autrefois et qu'ils essayaient d'implanter de là où ils se trouvaient, à droite, à gauche. Alors, ça veut dire que cette fête, c'était une vieille habitude, surtout au Pays de Galles, en Irlande, en Écosse, mais dans des villages, ça s'était pas répandu sur l'ensemble de l'Angleterre. Hein. Ça a plu aux gens, enfin, comme dans les médias, il y a des nouvelles, etc. Et ça a donné l'idée à un peu tout le monde, de faire la fête au moment de comme les Anglais au moment d'Halloween. Et c'était une fête à la fin des moissons, à la fin des vendanges, donc le passage de l'été à l'automne, l'été, l'hiver, vous voyez, c'est le changement de saison. Et c'est devenu une fête importante petit à petit, je vous dis, entre aux alentours de 1850-1860, chaque année ça a augmenté. Et chaque année, il y avait de différentes façons de faire la fête, et ça a intéressé les gens, et surtout les jeunes, parce qu'il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait pas de fête nationale encore à l'époque, juste la fête de l'indépendance, mais c'est tout, quoi. Et donc, petit à petit, les jeunes ont pris ça en main, ont pris l'habitude de faire la fête et de raconter ce qu'ils avaient fait pendant la fête. Et évidemment, les jeunes, ils faisaient ce que les bons bourgeois des villes, on l'imagine, appellent des bêtises ou des choses qui sont pas permis, si vous voulez, dans la politesse des gens bien, quoi. Et si bien que petit à petit, les calendriers autour d'Halloween se sont mis à faire des critiques, à dire ah non, ça va pas, faut pas ceci, faut pas cela. Et du coup, ça a donné davantage encore d'idées aux jeunes pour dire tiens, ça vaut le coup, ça nous fait de la pub. Et donc, ne serait-ce que pour passer dans le calendrier avec davantage de pub, ils ont exagéré certains aspects de la fête. Et donc, les médias ont eu de suite une importance assez grande, au point que il y avait à Toronto une université, on dirait un groupe étudiant. Les étudiants de Toronto étaient assez nerveux, bon, comme on le sait un peu partout, vous voyez. Et ils se sont saisis de cette fête pour faire vraiment de la subversion, et ça a fait peur aux gens qui tenaient les choses en main dans les villes, etc. Et en particulier ceux qui tenaient aussi le calendrier, ils se sont dit oulala, ça va mal, il faut arrêter ça. Et donc là-dessus, ils ont cherché le moyen de neutraliser la subversion qui était faite par les étudiants. Donc ça a donné une impression de pas seulement de passage de l'été à l'hiver, d'une saison à une autre, mais le passage d'un type de vie à un autre type de vie. Vous voyez ce qu'on met sous le mot subversion. On va s'arrêter une minute auparavant.
CFM.
CFM Radio.
CFM Cordes.
Qui me souriait, puis il a plu sous cette plage, dans cet orage, elle a disparu, et j'ai crié, crié à vie pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais chaud de peine. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire, et sans son espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié, Ali, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh
Je n'ai gardé que ce doux visage comme étave sous le sable mouillé. Ouais.
Et j'ai crié, crié, Ali, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais trop de peine. Ah, j'ai crié, crié, Ali, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré.
Corde 2022, Michel Bonnet. Nous parlons donc de la fête d'Halloween, et je disais donc que c'était une fête américaine qui a été en fait créée presque par le fait que les médias ont donné du poids et ont donné de la pub énorme à des fêtes que surtout les étudiants faisaient, et des fêtes qui tournaient à la subversion, puisque donc on s'imagine dans le Far West à l'époque, c'était pas, les gens se rassemblaient pas autour de monsieur le curé ou de monsieur le pasteur pour chanter des cantiques uniquement, quoi. Le mot de la fête comme moment de subversion, comme moment de changement de vie, de changement de la ville à la campagne, des grandes villes au Far West, le changement apporté d'une génération sur une autre, bien font que dans les villes, les bons bourgeois qui tenaient à ce que tout se passe bien, c'était le moment où les banques se mettaient en place, enfin, etc., etc., ils ont cherché le moyen de stopper cette subversion venant des étudiants. Ça a été assez difficile parce que ça a pris quelques décennies, mais finalement, ils ont trouvé le moyen, vu que c'était entre les mains des médias, et ils ont trouvé le moyen de transformer la fête subversive faite par les étudiants américains en une fête pour les enfants, par les enfants. Vous voyez, et ils ont dit, petit à petit, ils ont dit aux étudiants, bon, c'est enfantin, c'est idiot vos histoires, ce que vous faites là avec des bougies, avec tout ce qui pouvait passer par la tête de choses anciennes ou modernes. Et donc, ils ont transformé progressivement, surtout entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, au niveau des États-Unis, ça a fait un gros changement, où cette fête d'Halloween est devenue une fête des enfants, pour les enfants, pour les distraire, et évidemment, on est aux États-Unis, bon, en France aussi ça aurait été comme ça, mais aux États-Unis, les enfants de suite, c'est la confiserie, c'est le chocolat, c'est les friandises, comme nous les œufs de Pâques, vous voyez, c'est des choses comme ça, et donc c'est de la consommation maximum. Hein. C'est devenu une fête de la consommation à outrance, sous prétexte de faire plaisir aux enfants. Les enfants disant, racontant des histoires et recevant des cadeaux, enfin, tout ce qu'il y a autour d'Halloween, qui est parti dans tous les sens. Aujourd'hui, on ne sait plus du tout ce qu'est Halloween. Chaque entreprise le fait à sa façon, tout le monde se sert de la pub d'Halloween, et on met dans la fête pour nous faire acheter quelque chose aujourd'hui à Halloween, que ce soit une bougie, une citrouille ou un masque, aussi effrayant qu'on peut, on invente n'importe quoi, si bien que ça n'a plus rien à voir avec le démarrage d'Halloween en tant que passage, fête de passage de l'été à l'hiver, ou le passage de la fin des récoltes, la fin du gros travail des moissons, des vendanges, etc. Donc voilà, au niveau historique, voilà ce qu'est Halloween. Donc une fête américaine, une fête venue des États-Unis et qui est devenue une fête de la consommation à outrance, comme partout un peu aujourd'hui. Ça, c'est un point. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de réfléchir au lien qu'il y a entre ce fait de Halloween, la fête de tous les saints, enfin, si on peut dire, c'est ce qu'on appelle tous les saints, comment ça se passait autrefois, bien avant que l'Amérique devienne indépendante. Eh bien, on essaie de regarder un peu comment ça se passait en Angleterre avant que les Anglais partent coloniser l'Amérique. Auparavant, on s'arrête une petite minute.
CFM Cordes, trois lettres, un esprit, le rock.
Exactement, de la fête des saints, de la Toussaint, puisque Halloween, c'est All the Saints, la fête des saints. Et quand on regarde un peu dans l'histoire lointaine, dans les recherches qu'on fait, on s'aperçoit qu'au temps des Celtes, en Europe, et surtout dans le nord de l'Europe, Angleterre, pays du nord de l'Europe, etc., il y avait une habitude, une fête qui s'appelait la Samhain, bon, une fête celte. On la connaît très mal, mais on sait qu'elle se passait à la fin de l'été, au moment où donc les gens soufflent un peu après le gros travail et avant d'aborder le cycle de l'hiver, si on peut dire, de l'automne, de l'hiver. Donc, une fête de la nature, une fête du système végétatif où les gens, les paysans, s'arrêtaient un peu, soufflaient, et selon les lieux, disaient merci au soleil, merci à la pluie, ou imploraient le soleil de venir s'il n'y en avait pas eu assez. Enfin, vous voyez, toutes ces fêtes des paysans. Et on retrouve ça, en fait, c'est pas spécifique au monde celtique, c'est aujourd'hui on le dit, mais en fait ça se retrouve dans à peu près toutes les civilisations du monde. Il y a un passage un peu partout, que ce soit en Amérique latine, en Asie, en Afrique, etc. Il y a comme ça des moments du cycle végétatif, du solstice en particulier, qui sont marqués par des fêtes, par des réunions particulières. Alors, donc, on pense que l'origine est là, mais il n'y a pas, on ne peut pas dire, même si aujourd'hui, ceux qui essaient de promouvoir dans les médias la fête d'Halloween, en disant « il faut faire cette fête parce que c'est nos racines celtes qui revivent et on cherche tous des racines », bon, ça c'est du baratin médiatique. La fête d'Halloween, en fait, on ne sait pas exactement si elle est liée avec la fête celte de ce passage d'un cycle végétatif à un autre. Mais ce que l'on sait, c'est que l'Église, au Moyen-Âge, je remonte au Moyen-Âge parce que, d'abord, parce qu'on est en 2022 et qu'on prend l'habitude de parler de cordes il y a 800 ans, donc à l'époque de cordes, mais un peu avant, entre Charlemagne et, disons, la fondation de Cordes, et il y a eu tout un mouvement, on le sait, de l'Église, pour prendre ce qui était important dans les populations, qui était, on dirait avec des mots modernes, non chrétienne, païenne, et l'Église essayait de convertir les gens qui continuaient, et surtout dans les campagnes, à avoir des habitudes qui étaient basées sur le soleil, la lune, les saisons, etc. Et ces rythmes-là, l'Église, ça l'embêtait de voir ça, parce que on croyait davantage à la force des chaînes ou à la force d'une source que aux prières au bon Dieu ou au Dieu des chrétiens. Et donc l'Église essayait de contrer cela. Et pour contrer cela, au moment de la fondation de Cordes, par exemple, en 1222, il y avait un mouvement pour relier, pour faire une fête importante à ce moment-là, au 1er ou au 2 novembre, et l'Église a fixé une fête à la fois de tous les saints, puisque là c'était les vivants, et enfin, de tous ceux qui avaient vécu dans le périmètre où on était, en pays cordé ou ailleurs, quoi, et tous ces grands moines fondateurs de communautés chrétiennes ou de communautés monastiques, donc entre les saints reconnus par l'Église et puis les morts en général. Parce que toutes ces fêtes à cette époque-là se passaient, les gens les faisaient, les rassemblements, dans les cimetières. Ça, on en a déjà parlé, on le sait, ici, à droite, à gauche, les origines de pas mal de nos villages, Camp, par exemple, se retrouvent là. C'était que les gens étaient dispersés dans les petits hameaux, qui venaient des villas romaines qui parsemaient le pays cordé, et donc les gens étaient se rassemblaient pour entre parents, parents élargis ou voisins, on allait sur le cimetière qui était le premier village en quelque sorte, le village des anciens, le village des morts, et qui était le seul lieu commun. Donc il ne dépendait pas automatiquement ni d'un seigneur, ni de l'église, ni de l'évêque, etc. Et c'était un terrain, on pourrait dire aujourd'hui un terrain vague, un terrain communal en quelque sorte. Et là on se rassemblait et on faisait la fête, on chantait, on mangeait, on dansait, etc. Et évidemment, on se racontait aussi des tas de souvenirs, puisque on cassait la croûte sur la tombe du grand-père. Hein, et donc, le grand-père, qu'est-ce qu'il avait fait? Ah, mais je me rappelle quand tu faisais du foie gras, comment il faisait, ou des choses comme ça. Vous voyez, tous ces souvenirs que l'on a. C'était extrêmement, un moment extrêmement vivant. Et donc, on a pris l'église à, pris ces habitudes-là et à dire il faut le faire, c'est sérieux, et donc elle a poussé les gens, elle a aidé les gens, elle a poussé les à travers les sermons des curés et à travers les appels à se rassembler, etc. Elle a poussé les gens donc à venir autour du premier ou du deux, c'était pas encore fixé à un jour près à peu près quoi, à venir en disant on vient pour parler des morts et on vient pour parler aussi de, dans les morts, il y a deux catégories et faut pas les oublier. Il y avait les morts qui étaient reconnus être des saints, c'est-à-dire des exemples, reconnus par toute la communauté, ça avait été un type absolument super, etc. Bon, par exemple, j'espère que dans 20 ans, on parlera de Saint-Michel Bonnet à CFM, vous voyez, c'est des grands comme ça, on a des grands noms comme ça, ici même à Cordes, on en parle tous les jours, quoi. Et donc, entre des gens qui ont marqué la communauté, et puis d'autres qui, au contraire, les souvenirs n'étaient pas aussi bon, hein, je citerai personne, mais il y en a quelques-uns, peut-être, qui, quand on dit « Ah, un tel, ah ben oui, et quand il était maire, c'était pas tout à fait comme ça que ça se passait. » Enfin, vous voyez. Et donc, il y a eu deux aspects à ces réunions du 1er et du 2 novembre. C'était que d'un côté, on se tournait vers les gens bien, les ancêtres qui étaient bien, et on leur disait merci, on les louait, etc. Et puis de l'autre côté, on se tournait aussi vers les anciens qui avaient, enfin, qui avaient été méchants, je dis entre guillemets, pour leur dire « Dites, venez pas nous embêter ». Parce que l'idée de fond, c'était de faire un... On pensait que ces anciens étaient toujours, entre guillemets, en vie, puisque la véritable mort... C'était pas la mort corporelle, c'était l'âme, où on disait peut-être pas l'âme à ce moment-là, sauf dans les universités, disons que l'être continuait de vivre jusqu'à, on ne sait pas jusqu'à quand, mais l'Église essayait de dire que ça allait jusqu'au jugement dernier et qu'un jour fallait rendre des comptes. Et donc à travers cette idée de rendre des comptes au jugement dernier, il y avait un passage, un moment. Entre la mort physique corporelle et la mort définitive au jugement dernier. Et l'Église a joué sur ce sentiment-là parce que vis-à-vis des saints, on leur disait merci, continuez à nous faire du bien, mais vis-à-vis des méchants, enfin de ceux qu'on se considérait comme des méchants, on leur disait ne recommencez pas à nous créer des ennuis, vous voyez. On va s'arrêter une seconde de plus.
CFM Cordes, CFM, classique rock, classique rock.
My baby, don't stand no cheating, my baby. None of that.
at midnight creeping, my babe, true little baby, my babe. My babe, I know she loved me, my babe. Kiss and hug me, my baby, true little baby, my baby.
Michel Bonnet. Dans ce cadre donc de la réflexion sur la façon de vivre Halloween dans les traditions médiévales, autrefois au temps où Corde a été fondée il y a 800 ans, donc on était dans un mouvement d'église au 12e, 13e siècle où l'église essayait en quelque sorte de baptiser toutes les coutumes, toutes les habitudes des populations et notamment cette coutume bien ancrée chez les agriculteurs, chez les paysans en général, dans le monde rural, du passage du cycle de l'été avec les moissons, les vendanges, etc. On dit ouf avant de redémarrer sur un nouveau cycle avec le labourage, les semailles, la préparation de la récolte suivante. Et donc, on disait, les gens qui avaient vécu jusque-là, les morts, eh bien, on leur disait, venez nous aider à ce qu'il pleuve quand il faut, à ce qu'il y ait du soleil quand il en a besoin, à ce que tout se passe bien pour l'année prochaine. Et puis vis-à-vis des morts, puisqu'on faisait ça sur leur tombe, ils étaient là, quoi. On discutait avec eux, on leur disait, bon, vous avez pas été sympa, il y a eu des problèmes, mais peut-être que aussi c'était un peu de notre faute, en fait, parce qu'il y en avait quelques-uns qui étaient partisans des méchants, si on peut dire. Ils disaient, oui, on a oublié, au fait, on devait mettre sur votre tombe ou sur ta tombe, on devait mettre une pierre gravée, etc. On l'a pas fait, et alors t'es en colère, et c'est pour ça que tu vient nous embêter, on s'est mis, et sous la pression de l'Église aussi, on s'est mis à regarder les manquements qu'on avait eu vis-à-vis de ces morts. Et ces manquements, on les connaissait bien, parce que à l'époque, surtout à cette époque-là, mais même avant et même encore, évidemment, les gens faisaient des testaments. Quand une personne mourait, il essayait d'influencer ses héritiers, ses descendants, en leur disant ses volontés, faudra aider tel monastère, faudra donner à tel garçon tel château quand on y en avait, ou à tel autre un bœuf, à tel autre on va partager l'héritage, etc. Et puis, une fois qu'on les avait enterrés, eh bien le testament, il y en a pas mal qui s'en moquaient éperdument, exactement comme Alphonse de Poitiers quand il a vu le testament de Raymond VII pour sa mère Jeanne, il n'a pas passé longtemps à dire il était comte de Toulouse, et donc il a dit non c'est moi le comte de Toulouse, ce testament il marche pas, et il a transformé en particulier il a supprimé pas mal de cadeaux que Raymond VII voulait faire à droite à gauche, donc on changeait les testaments, et ça c'était un gros problème avec surtout que dans les testaments il y avait notamment le fait à cette époque-là que les gens qui mouraient demandaient absolument à ce que on prie pour eux, surtout quand ils se sentaient pas au point vis-à-vis du bon Dieu ou vis-à-vis de l'Église, ils voulaient se faire pardonner les erreurs, les fautes qu'ils avaient commises, les péchés comme dit l'Église, et pour se les faire pardonner, ils donnaient de l'argent aux prêtres ou aux paroisses pour que on dise des messes, on chante des psaumes pendant des mois et des mois et des fois je dirais presque éternellement, ils voulaient ça quoi. Et donc, on a pris l'habitude de refaire le point entre ces testaments, cette sorte d'obligation qu'on avait reçue des anciens et qu'on avait mal remplie. Et c'est comme ça que l'Église, à ce moment-là, a insisté pour qu'on prenne au sérieux ce temps qui se passait entre la mort corporelle, la disparition effective de la communauté vivante, de corps par exemple, et puis le jugement dernier, en disant, les gens sont morts, bon, ceux que l'Église considère comme des saints, avec eux, il n'y a pas de problème, on a fait une enquête, c'est sérieux, on sait que Dieu les sauve, ils n'ont pas de soucis. Les autres, alors là, ça va dépendre des prières qu'on va faire, des sacrifices qu'on va faire, et évidemment, quand on dit sacrifice, on dit au monde, faites à l'Église, si vous faites dire des messes, si vous faites faire des prières, si vous donnez de l'argent à la paroisse ou à un couvent, eh bien, tel péché de tel ancêtre pourra être sans doute effacé par la bonté de Dieu, et c'est comme ça que on a inventé à cette époque-là, en même temps qu'on a inventé, que Raymond VII a inventé Cordes, l'Église a inventé, je dirais, le purgatoire, ce qu'on appelle le purgatoire dans l'Église, c'est-à-dire un temps entre en attendant, un temps où on attend le jugement dernier en purgeant les peines qui étaient dues à cause de nos fautes. Et vous voyez comment ce passage, cette fête, ces fêtes de la Toussaint et des morts, les deux sont totalement liés, comme nous aujourd'hui, le 1er et le 2 novembre, et on a même des vacances, on a ceci, cela, on va au cimetière, évidemment, c'est devenu dans les habitudes, mais c'est très lié à un changement de société, et un changement où on passe d'une époque donc à l'autre. Et un changement qui est lié à la communauté et donc à un aspect festif, parce que en fait, dès qu'on pense collectif, dès qu'on pense communauté, on pense pas que du mal, on pense aussi être heureux ensemble, se donner un coup de main, etc. Et donc on se tranquillise mutuellement en se serrant les coudes mutuellement, et il y a rien de tel pour se serrer les coudes que de faire la fête. Et c'est pourquoi dans toutes les civilisations, mais surtout chez nous, en Europe, sur l'ensemble de l'Europe, au Moyen-Âge, où l'Église commençait à faire la pluie et le beau temps, où elle essayait, et avec les rois, elle était soutenue pour cela, pour christianiser ces fêtes du passage de l'été ce qu'on pourrait appeler l'hiver, du passage des moissons aux semailles suivantes, et donc du passage en quelque sorte qui ressemble à la mort à la vie. Et voilà où on en était il y a 800 ans. Si on vient faire un saut pour terminer jusqu'à aujourd'hui, vous voyez comment le modernisme à toutes les époques a été une pression du monde urbain sur le monde rural, et que progressivement on a essayé de garder certaines parties de la vie du monde rural quand on les considérait comme intéressantes, comme utiles, par exemple les marchés, des choses comme ça, mais en même temps en essayant de dire que ces fêtes du milieu rural, ces habitudes du milieu rural, bon, c'est arriéré, c'est vieux jeu, c'est de... On dirait pas de l'animisme en Europe, mais enfin disons en Afrique par exemple, les fêtes traditionnelles, on dit souvent c'est pas de la religion, c'est de l'animisme, vous voyez, et donc comment cette pression du monde, du nouveau monde, d'une nouvelle façon de vivre dans le monde urbain a poussé à regarder le monde rural comme un monde arriéré, un monde de la nuit par rapport au monde du jour que serait la vie en ville. Aujourd'hui, on est en train de changer, ça, bien sûr. Mais vous voyez, ce joint qui est à la base de la fête d'Halloween, si on peut dire, ou de ce qu'on raconte sur Halloween, entre le jour et la nuit, entre les morts et les vivants, et avec la place du feu qui vient éclairer la nuit, et donc il faut des bougies, et, vous voyez, c'est des apparitions des monstres pour tantôt pour faire peur ou pour faire plaisir, voilà. Donc la fête d'Halloween, si on peut dire, et la fête en cela traditionnellement de la Toussaint et des morts, la fête des morts et la fête de la Toussaint, c'est un moment clé dans chaque année dans le calendrier, hein, dans le calendrier qui rythme la vie des communautés, c'est un moment important. Et c'est comme cela que aujourd'hui, eh bien, le monde moderne essaie de redonner vie à travers la consommation et une sorte de prise de pouvoir sur la communauté. Mais on se rend compte, et on peut pas l'oublier, que on arrive en 2022, on arrive avec le changement climatique, et on se rend compte que cette prise de possession du monde moderne sur l'ensemble de la planète, c'est pas sûr que ça aille bien. Mais ça, c'est un autre problème et on en reparlera prochainement. C'était Corde 2022, Michel Bonnet.
It's a change in mood, maybe there's something to learn. But you wanna love and wanna do it well. Cause if there's none of it, what on earth is there to tell? Yeah. Oh, but the chances, oh, but the chances.
Strong, I've been learning it wrong. I've been searching the tongue, been away and beyond. I knew all along, I've been over the thought, it must be Africa.
If it's the fifth time I say the same, don't forgive me for it, yeah, let me take all the blame. But if there's a chance to touch your heart again, I'll repeat myself till I lose count of this thing. Hear me sing. Oh, I've heard what they say about you. Now don't need an explanation of what would be true. Cause I wanna love and wanna do it well. Cause if there's none of it, what on earth is there to sell? But I'm with the chances.
I've been learning it wrong. I've been searching the tongue, been outweighing me on. I swear I knew all along. I've been over the thought, it must be Africa. It must be Africa.
tongue, beat up way in me on. I swear I knew all along, I've been over the thought, it must be I forgot.
Écoutez et réécoutez. CFM Corde sur cfmradio.fr.
Beat up little cigar on a marble stand. Ocean, looking everywhere, hard times in the city, in a hard town by the sea, ain't nowhere to run to. Free. Look on the corner, waiting for a train. Drunk, lying on the sidewalk, sleeping in the rain. Don't know why.
FM Cordes, trois lettres, un esprit, le rock.